23 novembre 2014. Je déteste les petits pois. Je me suis réveillé tôt ce matin avec cette pensée glissée là par erreur dans une brèche de mon cerveau. Je déteste les petits pois. Cela ne tient qu'en 5 mots. Impossible pourtant de m'en débarrasser, cela s'enracine toujours plus. Je déraille. Je ferais mieux de retoucher l'épisode des retrouvailles de Samy et Paloma, la scène est mièvre, alors qu'elle devrait être la clé de voûte de mon roman. Ou alors dresser la liste des courses pour la journée, arroser mon orchidée, prendre rendez-vous chez le dentiste, au moins c'est utile. Mais je déteste les petits pois, je les ai toujours détestés. Un souvenir insiste. Celui de ma mère qui me demande de les écosser, cela n'en finit jamais. Ça file entre les doigts, ces satanées billes vertes. Mes mains n'y sont pas bonnes. Je me faufile hors de la cuisine dès qu'elle a le dos tourné. Je grimpe dans le pommier du jardin, je m'adosse à son écorce, me retire de la vue des autres pour y lire, blotti dans ses ramures. C'était il y a longtemps, quand mes cheveux n'avaient pas encore la couleur de la cendre froide. Mes premiers pas dans les mots, lus puis écrits, sont inséparables de la rugosité d'un tronc et des pommes blettes tombées à terre. L'enfance, ça revient toujours. Elle nous poursuit, s'accroche à nos basques jusque dans nos vies d'adultes. Il reste encore beaucoup en moi de la clandestine du pommier à la peau noueuse, de la fillette qui se nourrit de phrases en cachette, ne craignant pas d'échapper aux autres pour les trahir avec un livre. C'est peut-être grâce au petit pois de ma mère que je suis devenu écrivain. Voilà comment débute le journal de l'oubli de Sylvia Harry. Tout en douceur, plein d'étrangeté et de légèreté. Son livre demande à être apprivoisé. Il n'y a rien du coup de poing d'un roman policier, de l'aspiration d'un roman d'aventure ou la beauté d'un conte étrange. Il y a juste la constatation d'une réalité de la vie qui risque de disparaître. Le roman de Sylvia Harry, Journal de l'oubli, commence par la lecture en catimini d'un journal intime d'une personne âgée. Nous pénétrons par la petite porte, presque en cachette, comme par curiosité déplacée dans l'univers d'un personnage que nous apprendrons à être écrivain, grand-mère, et devant achever un roman momentanément en panne d'inspiration. Ce journal nous est dévoilé par la petite fille de l'écrivain en question, petite fille qui n'est plus jeune puisqu'elle écrit son mémoire en biologie. Oui, ce livre de Sylvia Harry est une histoire à tiroir, et l'auteur joue malicieusement à nous perdre à coups de dés et de pions, comme dans un jeu de société digne d'une enfance révolue. 15 février 2015. Gaëlle m'a presque fait peur quand elle est rentrée. Elle a dû s'approcher à pas de loup, je ne l'ai pas entendue se glisser dans la pièce, faire grincer les lattes du parquet du salon. Elle a mis ses mains fraîches sur mes yeux, cela m'a fait sursauter. Puis nous nous sommes envolés sur un éclat de rire. Ses paumes sur mes paupières, un frisson de froid qui revigore. Elle m'a demandé pourquoi je restais dans le noir sans allumer l'abat-jour. Je n'ai su quoi répondre, je n'en avais pas la moindre idée. J'ai dit que la lumière me blessait les yeux, j'en avais assez du soleil de minuit. Il fallait apprendre tôt à s'accoutumer à l'obscurité des choses, pour ne pas être surprise quand la nuit frapperait. Elle a rétorqué « Mamie, tu racontes n'importe quoi, tu as trop d'imagination. » Elle a allumé toutes les lumières et m'a raconté sa journée, s'est surtout attardée sur sa dispute avec son amoureux. Elle voulait aller voir les poings contre le mur, tandis que lui préférait un film d'action. Cela l'avait agacé qu'il s'intéresse aussi peu à des sujets d'actualité. Elle en était encore si vibrante de colère qu'elle a ignoré les messages qui ont fait trépigner son iPhone. Sa mine fermée, son air boudeur, cela m'évoque ses révoltes de petite fille face au manque de fantaisie de son père. « Ne t'inquiète pas, ai-je dit, ça va s'arranger avec Marco. la querelle sera vite enterrée. Et la ripostée d'un ton sec, Matteo, mamie, Matteo, pas Marco. Ensuite, elle a quitté la pièce. Plus qu'un journal de l'oubli, c'est un roman sur la vie qui s'arrête peu à peu, par bribes ou par pan entier. La protagoniste perd la mémoire, donc la vie. Son journal s'achève quand les mots font défaut, quand l'écriture ne capte plus rien. La deuxième partie du roman raconte les affres de l'entourage à faire face à l'émiettement de la vie de la grand-mère écrivain. Situation malheureusement beaucoup plus courante, mais ici racontée avec une suite de drames au quotidien, mettant en valeur l'impuissance des vivants face à la déchéance du mourant. Ils ont touché la bordure extrême, à cette lisière où la réalité se charge de rappeler à l'ordre les innocents et les rêveurs. Gaël ne peut s'empêcher d'en vouloir à sa grand-mère. Qu'est-ce qui lui a pris de partir seule par un jour semblable? Elle pourra insulter tant qu'elle veut l'océan qui a failli emporter Laurence. Le cocon qu'ils ont construit autour d'eux est sur le point de se rompre, elle le sait. Elle le croyait solide, il n'est que de cristal. Aucun papillon aux ailes irisées ne s'en échappera. Tout arrive beaucoup trop tôt. Elle ferme les paupières, s'oblige à ne penser à rien. Mais comment fait-on pour ne pas penser? Le rien, puisqu'il porte un nom, représente déjà quelque chose. Abruti par le désordre du monde, le rêve de Gaël tremble face à la folie qui rôde, accompagnée de la mort, qui patiente juste à côté. Il vole en éclats, le rêve de Gaël, frissonne, criblé de gouttes, se fracasse dans un grondement de tonnerre.